Lorsque nous entendons et que nous contemplons, que nous approfondissons la notion de l'impermanence ou le réel de l'impermanence et l'expérience de dukkha, de la souffrance, naturellement nous sommes amenés à avoir une autre relation à moi. Et la troisième des caractéristiques, le non-moi, c'est se lâcher prise du moi au centre, qui par définition implique une certaine tension, une certaine souffrance, une certaine inquiétude, parce que le moi est vulnérable. Nous sommes vulnérables en tant qu'être incarné. Nous avons peur de perdre. Nous avons peur de perdre notre sécurité matérielle, notre sécurité affective ou psychologique. Nous avons peur de perdre la santé. Nous avons peur de perdre nos valeurs, perdre la tête. Je me souviens, ma grand-maman, c'était la pire des choses qui pouvait lui arriver, qu'elle perde la tête. Ça lui est arrivé. Nous avons peur de perdre la vie. C'est le fonctionnement du moi. Et c'est paradoxal parce que lorsque nous avons peur de perdre, nous ne pouvons pas être en présence, nous ne pouvons pas, au fond, nous ne sommes pas vraiment vivants. Anatta, le non-moi, pointe directement à cette notion de non-attachement. Et ça peut faire peur, être détaché. Oups, quoi. Moi, je viens pas méditer pour être détaché, je viens méditer pour être mieux, pour avoir moins de stress, moins d'inquiétude, moins de confusion, moins de colère, moins de méchanceté, moins de jugement, moins de dureté. Ça, je veux bien avoir moins. Mais abandonner moi, c'est une autre histoire. Alors, c'est questionnable. Qu'est-ce qui peut m'arriver si je veux bien perdre? Qu'est-ce qui peut m'arriver? Eh bien, je veux bien perdre. Au fond, rien ne change extérieurement parce que la méditation ne fait pas changer nos vies, elle ne fait pas changer la personnalité, mais elle fait changer cette tension énergétique d'un moi qui ne veut pas perdre. Et quand nous apprenons la valeur de l'abandon ou du renoncement, nous nous rendons compte que tout le monde y gagne. L'ignorance, c'est cette peur de perdre qui crée une crispation Et au fond, qui fait que dans l'instant, je vis, mais je suis à moitié mort. Je me souviens, j'ai une amie qui a son papa qui était décédé, puis sur le faire-part, il y avait une très jolie parole, je crois que ça vient de la Kabbale, qui disait: sans toi, la mort est dans ma vie. Avec toi, la vie est dans la mort. Sans cette présence, sans ce plein de rien, sans cette qualité d'oser perdre, la mort est dans ma vie. Et avec cette qualité-là, je meurs tranquille. Et le fait de développer une compréhension de anatta donne une réelle valeur à la vie. La présence est un refuge sûr. Alors que le refuge dans le samsara, ce qu'on appelle le samsara, le monde conditionné, c'est un refuge totalement incertain, totalement lié à l'impermanence, totalement conditionné. Et le refuge dans la présence, cette manière de pouvoir tout recevoir, de ne pas me crisper sur ce que je veux ou ce que j'attends. Donc on pourrait dire que c'est une manière d'être ouvert à l'instant où où j'ai déjà tout perdu. J'ai tout perdu. Mais qu'est-ce qui vient là? Il n'y a pas d'attente. Et lorsque nous avons lâché de cette manière, lorsque nous avons donné, eh ben, nous ne pouvons plus rien perdre au fond. Y a cette petite histoire de Nasreddin, il y avait tous ses voisins qui étaient réunis au bord de la rivière, au bord, c'était un lac, je crois. Et puis il y avait un homme qui était en train de se noyer, il ne savait pas nager. Puis tout le monde lui disait: mais donne-nous ta main, donne-nous ta main. Et puis il continuait à se débattre, il ne donnait rien du tout. Et puis Nasreddin est arrivé, puis il a dit: enlevez-vous de là, je connais mon voisin, c'est un avare. Il s'est approché de l'eau, puis il a dit: hé voisin, tiens, prends ma main. Il a été sauvé in extremis. Cette peur du détachement est un leurre. C'est ce qu'on appelle l'ignorance ou l'illusion ou l'aveuglement. Mais c'est à respecter. Nous nous approchons peu à peu de cette notion parce que ça doit lâcher énergétiquement. Quand le Bouddha dit: ne croyez rien de ce que je vous apporte, mais vérifiez, c'est que c'est inutile d'y croire, complètement inutile. Mais de l'entendre, d'avoir de l'intérêt et d'avoir intérieurement un élan pour aller approfondir et vérifier, c'est tout le chemin, finalement. Et ça n'appartient pas au bouddhisme. Je vous lis Christiane Singer. Elle a fait un très beau chemin de développement à la fin de sa vie. Elle est décédée d'un cancer et très profond, très beau. Elle dit: ma vie, on ne me la prend pas, c'est moi qui la donne. Ma vie, je ne la préserve pas, je ne la garde pas, je la donne. L'innocent qui souffre ne peut pas mourir, on ne peut lui prendre que ce qu'il n'a pas donné. Si tu as tout donné, la vie et la mort, il ne reste rien. Certains appellent cela l'agapé ou l'amour, le seul Dieu qui ne soit pas une idole, celui qu'on ne possède qu'en le donnant. Il y a ces trois formes d'amour, le eros, qui est l'amour des sens, dans la nourriture, dans le sexe, dans la jouissance, la belle musique. Il y a... Ah bah voilà, j'oublie comment on dit en grec le deuxième. Qui c'est? Philos. L'amour fraternel, l'amour interrelationnel. Et puis agapé, qui est cet amour gratuit, ce rien. Cette manière d'aimer parce que j'ose tout perdre. Que tout est donné. Et l'impermanence approche, nous fait approcher de cet anatta parce que nous nous rendons compte que vraiment nous ne pouvons pas mettre nos œufs dans le monde du samsara. Nous ne pouvons pas compter sur ce monde-là. Ça change et ça change tellement vite. Et aujourd'hui, c'est particulièrement... Enfin, on a toujours l'impression que c'est particulier notre époque, mais quand même... Je me souviens dans les années 70, je vivais en communauté et puis on avait dans un village, puis on avait fait une fête de village où on avait invité plein de monde et il y avait un médecin social, la médecine sociale. Et lui avait observé, voilà, il y avait tout un mouvement qui observait et qui nous disait que jusque dans les années 70, le progrès allait de pair avec l'amélioration de la santé. Et qu'à partir des années 70, le progrès a commencé à détériorer la santé. Et maintenant, ça ne détériore pas seulement la santé, ça détériore la survie de l'homme, peut-être. Alors, ça va nous pousser peut-être encore plus à ne pas mettre tous nos œufs dans le panier du samsara. C'est pas là qu'on peut mettre notre sécurité. Si nous voulons vivre une vie où l'acte et la parole ne sont pas trop porteurs de souffrance, il y a une réflexion à avoir sur cette libération de la peur, et particulièrement de la peur de perdre. Parce que lorsque nous sommes libres de la peur, nous pouvons être. Ce qui fait que je ne peux pas être, c'est qu'il y a cette inquiétude de l'instant, je n'ai pas confiance en l'instant, et je crois toujours que c'est plus vert à côté. L'herbe est plus verte dans le champ d'à côté. Et alors nous ne sentons plus la valeur essentielle de cette présence. Nous ne pouvons pas vouloir lâcher prise ou vouloir être détaché. Vous avez remarqué? C'est difficile, hein, de vouloir être détaché. Mais nous pouvons vouloir laisser être. Et c'est tout le processus méditatif. Quelle est l'expérience ici et maintenant? Est-ce que je peux laisser être? Et ça, c'est notre responsabilité. Et nous pouvons voir comment, quelquefois nous contrôlons, quelquefois il y a un abandon. Quelquefois nous sommes identifiés, quelquefois nous sommes dans la confiance, quelquefois c'est le stress, quelquefois le calme. Quelquefois l'exigence, quelquefois la bienveillance. Et quand il y a ce retournement où le moi n'est plus au centre, au lieu que nous passions toujours d'un objet de conscience à un autre, de la du doute à la confiance, où les choses sont ensemble. Ok, il y a le doute, c'est l'expérience. Il y a une expérience de doute. Mais avec la présence, il y a en même temps la confiance. J'ai confiance dans ce doute. C'est l'instant, je sais que c'est avec lui que je vais grandir. Et au fond, au lieu de poser les contraires, nous commençons à savoir unifier ce paradoxe de la vie. Et quand il y a la réactivité, ok, je ne prétends pas, il y a la réactivité, c'est l'expérience. Mais avec la présence, il y a une totale non-réactivité à la réactivité. Ou s'il y a la peur, et que c'est clair qu'il y a la peur, je la sens, elle est là, ok, c'est bon, il y a la peur, c'est l'expérience. Et qu'il y a la présence. Il n'y a aucune peur. Il n'y a aucune peur de la peur. Au contraire, il y a un total apprivoisement, une intégration, une inclusion de la peur. Et de cette manière, quand nous approchons du non-moi, nous sommes en même temps dans ces valeurs du moi qui sont des valeurs de séparation. C'est ok, le moi sépare. Et dans les valeurs du dharma ou de la vérité qui sont des valeurs d'unification. Lorsqu'il y a cette qualité de questionnement, je viens m'asseoir et au lieu de savoir ce que je vais expérimenter ou d'avoir une attente, je suis totalement l'attention pure, totalement réceptive, complètement dans l'équanimité. C'est du non-moi. Alors que si je viens m'asseoir et que j'avais eu une bonne expérience juste avant, alors je suis pleine d'enthousiasme pour l'exercice, la méditation, ça va être super, je reviens. En général, c'est le drame. Parce que voilà que, j'ai tout perdu, mais qu'est-ce que j'ai fait de faux? C'est juste que ça change et que la perspective est dans le lâcher prise et non pas dans la manipulation. Donc, quand nous apprenons à remplir la conscience de l'instant tel qu'il est et non pas tel que nous le voulons. Nous le vidons en même temps du moi. Le moi, c'est cette pensée non sage, égocentrée. Et quand je dis égocentrée, ça n'est pas pour critiquer quoi que ce soit. On a le droit d'être égocentré, pas de problème. Mais ça fait souffrir. Et nous commençons par ce moi égocentré. C'est là que nous commençons. Et peu à peu, nous comprenons mieux. Nous voyons que ça se libère. Et ce qui se libère, ça n'est pas l'expérience qui change pour tout le monde, mais c'est l'enjeu que l'expérience engendre pour le corps et l'esprit. L'expérience engendre toujours un enjeu, à moins que nous ne soyons en présence. Quand on a demandé au Dalai Lama, mais est-ce que vous avez encore des fois de la colère, de l'inquiétude, des désirs, des frustrations, vous allez dire, oh, mais moi j'en suis plein. Mais ça ne me gêne pas du tout. Et le non-moi, c'est ça. C'est cette manière de considérer la nature humaine dans sa nature humaine, pleinement, sans être envahi par elle, sans être gêné. Il y a ces deux attachements que sont le besoin d'existence et le besoin de non-existence, ou la soif d'existence et la soif de non-existence. J'aimerais juste reprendre un peu ça. C'est lié à la soif pour la réussite ou pour la reconnaissance, pour le regard de l'autre, qui est un regard qui apprécie, qui valorise, qui aime. La soif pour le gain. Et puis la non-existence, c'est cette peur, justement. Cette peur de l'échec, de la perte, du blâme, de la critique. Nous pouvons mourir d'être critiqués. Nous sommes tellement sensibles. Et c'est bon de voir les moments où j'ai besoin de prendre de la place, où je sens que j'aimerais tellement être vue, reconnue, valorisée. Et où le contraire fait mal. Waouh, je suis pas reconnue. C'est vraiment dur pour le petit enfant intérieur. Et nous pouvons voir aussi comment nous pouvons entrer dans la non-existence, soit en nous faisant petit, même si derrière on aimerait bien être grand, ou bien en étant en complète révolte, dans la réaction, contre. Et de nouveau, il n'est pas, il n'y a pas besoin d'être ni pour ni contre, mais de voir. Quelquefois, je suis pour, je veux. Il y a ce besoin d'être au centre. Et quelquefois, j'ai aucune envie d'être au centre. J'aimerais justement surtout pas être vue. Le besoin d'existence et de non-existence est profond. Et c'est par le laisser-être que le lâcher-prise arrive comme une grâce. Lorsque nous comprenons cette dualité à l'intérieur de nous-mêmes, quelquefois existence, quelquefois non-existence, nous pouvons nous situer au-delà. C'est-à-dire qu'émotionnellement, ça ne tremble plus. Conceptuellement, ça ne cherche pas à comprendre, ni à analyser, ni à savoir pourquoi. Le mental se met au service d'autre chose. Quand c'est clair, c'est clair. Et là, ok, je développe. Mais si c'est pas clair, c'est pas clair. Et quelque chose est extrêmement simple, extrêmement simple. Nous croyons dans notre nature, le moi, croit que la sagesse c'est quelque chose de génial. Ah ben vous savez ce que c'est ça? C'est quoi ça? C'est l'ignorance à l'état pur. Parce que je crée la séparation dans l'instant. Waouh, si j'étais sage. Je le suis. Nous le sommes juste maintenant au moment où nous faisons acte de présence. Et le non-moi, c'est arrête d'opposer l'ignorance à la sagesse. Il y a des instants clairs et des instants pas clairs. Mais au moment où je les vois, je les rends clairs. C'est Ajahn Suchito qui dit: être dans le non-discernement et le savoir, c'est la sagesse. Nous pouvons être sages toujours. Et la sagesse, c'est le contraire d'un moi qui dit je sais. La sagesse, c'est un moi qui questionne. Qu'est-ce qu'il y a? Qui explore, qui est dans cet art. Il y a un art de la méditation qui fait que jamais rien n'est acquis. De même qu'il y a un art de vivre, où chaque nouvelle journée est une nouvelle journée. Et bien sûr, nous avons des projets, mais peu importe. L'instant, c'est l'instant. Il faut bien avoir des projets, puisque nous sommes des êtres temporels. Mais ce ne sont pas les projets qui sont prioritaires. Et lorsque nous savons moins, alors nous jugeons moins, nous exigeons moins, nous espérons moins, c'est franchement plus tranquille. C'est Rudolf Steiner qui dit: on doit avoir sans cesse présent à l'esprit qu'on n'apprend plus rien d'un fait que l'on a jugé d'avance. Si l'on veut uniquement juger, on ne peut en principe plus rien apprendre. Il faut avoir la volonté très ferme d'être un élève. Si l'on ne peut comprendre quelque chose, mieux vaut s'abstenir de juger que de juger faux. La compréhension viendra plus tard. Donc, la question c'est qu'est-ce que je peux voir, qu'est-ce que je peux sentir, comment je peux être ici et maintenant dans ce qu'on appelle la contemplation. La contemplation c'est cette intimité avec l'expérience, mais une intimité qui est spacieuse. De nouveau, on retombe un peu dans le paradoxe, et pourtant c'est bien ça. Je reste avec moi et tous ses aspects, mais aussi avec l'espace et le silence. Et alors il y a cet étonnement. Et l'instant est, et il est assez. Qu'est-ce qu'on a besoin de plus, toujours? Drôle. Anatta, c'est quelque chose de relativement neutre. Rien de spécial. Je me souviens quand j'avais été chez Ruth Denison dans le désert à l'époque, au milieu du Buddha Hall, il y avait un... Je le répète souvent, mais ça, j'aime bien m'en souvenir de ça. Il y avait un pilier où c'était écrit « You are here to be nothing special ». Vous êtes ici pour n'être rien de spécial. Et c'est vrai que Anatta, c'est ce neutre, mais ce neutre qui a la présence. Il y a plusieurs sortes de neutre. Il y a un neutre un peu indifférent, ça n'est pas ça. C'est un neutre vivant. Et avec Atta, lorsque nous tombons dans le moi, que nous oublions le non-moi, parce qu'il y a eu un choc émotionnel ou un oubli, simplement, une absence de présence, on peut sentir à quel moment tout d'un coup il y a l'éveil. Et l'éveil, c'est ça. Tout d'un coup, hop, je sors. La tête de l'eau. Et je me souviens. Ok. Je peux être là, il y a le corps. Il y a l'espace, il y a le silence. Attends, tu peux un peu lâcher. Nous croyons que la sagesse, c'est d'emmagasiner beaucoup de choses, mais c'est exactement le contraire. C'est de nous vider de tout. Et ce qui reste, c'est du rien, mais du rien qui est totalement plein. Et j'aime citer des petites phrases qui viennent d'autres traditions parce que c'est vraiment une compétence de la nature humaine. Et ça, c'est dans un bouquin qui s'appelle le Saint Petit Placide, la vie du Saint Petit Placide. L'homme fort est celui qui s'est enfoncé profondément dans la faiblesse du Christ. Écroulement de la force factice, du plein de soi, de l'agitation ridicule de la fourmi qui croit bâtir le monde. Tout anéanti, il dit « Seigneur, je ne peux plus rien ». Et à mesure que s'écroulait sa force humaine, la force de Dieu le remplissait. Dit autrement, c'est pareil. quand le moi, avec son cortège de pensées identifiées, lâche, il reste cette présence, un corps vivant, des corps vivants, et l'espace, le silence. Et c'est une forme de plénitude, mais une plénitude de rien. C'est Adyashanti qui dit, vous vous rendez compte que vous n'êtes rien, mais quel rien. Ça fait du bien. Ça fait juste du bien de pouvoir lâcher cette agitation ridicule de la fourmi. En plus de ça, qui croit bâtir le monde. La conséquence de ce travail lié à l'abandon du moi égocentré, c'est l'ouverture du cœur, la générosité, le don, le service. Et c'est vrai que quand nous commençons à méditer, nous avons beaucoup d'espoir, le moi a beaucoup d'espoir de vivre des grandes choses. Ça crée une tension. Je me souviens, j'avais une discussion avec Ajahn Suchito pendant une retraite où justement, tout d'un coup, je me suis rendu compte, mais attends, au fond, je cherche quoi? Je cherche rien d'autre que l'instant. Ça veut dire quoi? Puis on parlait de ça et puis je lui disais, mais alors ça sert à quoi? Si le but, c'est que ça. Et puis il m'a regardé un peu désolé, puis il m'a dit, il n'y a rien d'autre à faire. Je vous lis encore une parole de Joseph Goldstein. L'acte d'un être éveillé ou d'un homme ordinaire est le même. L'un comme l'autre sont un avec l'acte. Mais l'homme ordinaire se perd dans l'acte en créant une personnalité identifiée et fixe. L'être éveillé se lie totalement à l'acte, mais il sait qu'il n'y a personne qui agit. Et quand nous cherchons le sens de la vie, ma vie n'a pas de sens, non, elle n'a pas de sens. Elle n'a pas de sens. Si ce n'est le sens du don. Parce que le don, non pas parce que c'est bien, c'est pas spécialement bien, mais ça fait du bien. Anatta, c'est du rien, mais du rien qui est tout. Et au fond, on peut en parler, mais ça ne peut jamais vraiment dire cette fin du paradoxe. Parce que c'est vraiment une expérience de transcendance. Dès que je reviens dans le corps, je suis dans la dualité. Il n'y a pas de miracle. Mais le fait de le savoir, c'est suffisant pour appartenir aux deux mondes. C'est Maître Eckhart qui dit que nous avons deux naissances. celle que nous avons à notre naissance et celle qui vient à nous lorsque nous naissons en Dieu, cette naissance spirituelle. J'ai encore une petite parole qui s'appelle « La splendeur du mendiant ». C'est un conte soufi. Un ascète en guenilles s'introduit un jour dans le palais du calife de Bagdad et, profitant de l'absence de celui-ci, il s'installe sur son trône. Abasourdi par l'outrecuidance du mendiant, les gardes appellent en hâte le secrétaire du palais. Ce dernier arrive, constate l'outrage et interpelle l'irrespectueux. « Te rends-tu compte qu'occuper le siège du calife des Abbassides, le commandeur des croyants, est une insolence suprême? Sais-tu qui est le calife ?»« Oui, » dit l'ascète, « je sais, et je suis au-dessus de lui. » Les gardes se rapprochent de l'inconscient, attendant un ordre du secrétaire. Hors de lui, celui-ci poursuit. « Mendiant, ton état de pauvreté te fait-il perdre la tête? Ne sais-tu pas qu'au-dessus du calife, il n'y a que le prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, lui qui nous a révélé le Saint-Coran ?»« Oui, » dit l'homme, « je sais, et je suis au-dessus de lui. » Cette fois, les gardes lèvent leurs gourdins, prêts à intervenir. Mais par un geste de la main, le secrétaire leur intime l'ordre de patienter. Juché sur le trône, l'ascète observe tranquillement la scène. Le visage rouge de colère, le secrétaire tonne. Au-dessus du prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, il n'y a que Dieu. Que dis-tu maintenant, mendiant ? Je sais, dit le mendiant, et je suis au-dessus de lui. Les gardes se jettent sur l'ascète. Il le tire par les jambes et les bras pour le pousser hors du trône. Il n'oppose aucune résistance. Et à son tour provocateur, le secrétaire exaspéré lui lance. « Alors, mendiant, il n'y a rien au-dessus de Dieu. »« Oui, je sais, et justement, je ne suis rien. » Et dans l'exercice de la méditation, nous pouvons tranquillement laisser le Dharma faire sa part et laisser le Dharma agir en nous. Nous faisons beaucoup dans une retraite. On cherche comment être là, où focaliser, est-ce que je fais ci ou ça, metta, ou bien je sais pas quoi. On peut laisser faire tranquille. C'est encore Christiane Singer. C'est une clé, pour moi c'est une clé. Savoir comment je pose la question. Et plutôt que de toujours chercher mais qu'est-ce que la vie peut m'apporter, plutôt questionner mais qu'est-ce qu'elle attend de moi. Et c'est Christiane Singer qui le dit. Elle dit « Il y a du sens dans ma vie qui est un mystère. » La vraie question, qu'est-ce que la vie veut de moi? Plutôt que qu'est-ce que la vie peut me donner? Et la question est suffisante. Encore faut-il se souvenir de poser souvent la question. Et le sens de la vie, au-delà de tout ce que nous faisons au niveau professionnel, familial, artistique, au niveau de nos loisirs, c'est peut-être uniquement cette quête du qui suis-je qui permet de laisser faire en nous. et de devenir un instrument du Dharma. Beaucoup réfléchi à ça, je trouve très beau. Et quand Maître Eckhart en parle, ça fait sens. Et dans toute la loi du karma, nous nous réincarnons, pourquoi? Et quand on a posé la question à Kalu Rinpoche, qu'est-ce qui se réincarne? Il a répondu, your bad habits. Vos mauvaises habitudes. Nous nous réincarnons parce que nous avons quelque chose à purifier. C'est la seule raison. Et Maître Eckhart, il le dit tout pareil. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Au premier terme de la phrase correspond l'incarnation. Au second, l'inhabitation ou la présence de Dieu dans l'âme. On pourrait dire qu'à l'humanisation de Dieu répond une divinisation de l'homme. Le Verbe s'est fait chair pour permettre la déification de l'homme. Nous sommes appelés à retrouver la conscience universelle. Et chaque petite goutte de conscience que nous laissons tomber dans notre baquet, c'est un petit bout de ça. C'est une petite part que je fais, que nous faisons ensemble. Et je vais finir avec Ezra Baïda parce que c'est tout à fait en lien avec ce que nous vivons là dehors. La pratique, c'est de vous donner aux autres, mais comme un oiseau blanc sur la mer.